Nous sommes de retour. On discute toujours avec Michèle Frenette, qui est la directrice de la Direction de la protection de la jeunesse Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. On fait le bilan de cette année, mais on va un petit peu plus loin pour comprendre un peu ce portrait-là. Alors, on a parlé beaucoup, justement, des signalements, puis qu'est-ce que c'est un signalement qu'il fait, et puis, bon, qu'est-ce qu'on retrouve comme problématique? Négligence, évidemment, abus physiques, abus sexuels. Juste pour terminer cette partie-là, est-ce que dans les secteurs de la Gaspésie, où on se démarque plus que d'autres, par rapport à ça, donc je pense à Côte-de-Gaspé. Est-ce qu'on est à part de d'autres secteurs par rapport à des problématiques quelconques ou c'est assez équivalent d'une place à l'autre?
Je pourrais dire que cette année, c'est relativement équivalent. En effet, à Gaspé, on peut voir dans notre bilan qu'on a un peu plus de suivi que dans d'autres secteurs. Ensuite, on a Rocher-Percé et Haute-Gaspésie qui suivent de relativement près. Par contre, si on regarde vraiment tous nos chiffres du bilan, il n'y a pas de territoire Gaspésie-les-Îles qui se démarque au-delà des autres territoires. Donc, c'est vraiment un bilan qui se répartit dans okay. tous nos MRC.
Avant de parler de l'intervention, quand on dit qu'on a 1474 signalements, ça ne veut pas dire qu'on va tous les traiter.
Non.
J'aimerais qu'on m'explique un peu, ou expliquer à la population comment ça fonctionne, parce qu'on sait qu'il y en a qui ne sont pas retenus, et c'est une majorité d'ailleurs. Mm-hmm. 841 n'ont pas été retenus, et 633 donc ont été analysés, suivis et tout. Expliquez-moi comment on démêle tout ça.
En fait, on a le signalement qui provient de quiconque désire signaler un enfant. On a des intervenants à la réception des signalements, ce qu'on appelle communément pour nous le RTS. Donc, les intervenants reçoivent le signalement. À ce moment-là, ils doivent faire une première évaluation sommaire de la situation qui est basée sur 4 facteurs importants qui sont dans la loi sur la protection de la jeunesse. C'est vraiment les faits, bien sûr, ce qui nous est signalé. Est-ce qu'on a des faits qui sont avec une gravité importante, récurrente? Ensuite, on a la vulnérabilité de l'enfant, son âge. Est-ce que l'enfant a des particularités au niveau physique, au niveau déficience? Donc, vraiment, la vulnérabilité. Ensuite, on va regarder les ressources des parents, la capacité des parents à s'occuper de leur enfant, à aller chercher des services, à prendre les services, le soutien. Et finalement, on va regarder le quatrième facteur qui est la collaboration ou les ressources du milieu. Est-ce que les parents, la famille reçoivent de l'aide autant de la famille élargie que des organismes communautaires, que du réseau d'un travailleur social ou autre? Donc, ces 4 facteurs-là sont toujours analysés de la même façon et ça, c'est provincial. C'est vraiment la loi. Donc,
c'est des intervenants du milieu qui vont rencontrer...
Non, pas au RTS.
Ah, OK.
Au RTS, c'est vraiment encore fait au téléphone. On reçoit le signalement et le tout est analysé à l'intérieur de 3 jours pour voir est-ce qu'avec les éléments qu'on a, on en a assez pour envoyer un intervenant chez les gens. Donc, à partir du moment où, au RTS, on a assez d'éléments pour s'inquiéter en fonction des facteurs et de l'impact chez l'enfant, on envoie un intervenant à l'évaluation, sur le terrain, aller rencontrer les parents et l'enfant pour évaluer ensemble, pour avoir leur opinion, voir comment ils voient la situation qui nous a été signalée. Donc, même à partir de l'évaluation, il y a beaucoup de situations qui sont aussi fermées à l'évaluation, qui ne vont pas nécessairement à ce qu'on appelle l'application des mesures. Donc, il y a quand même plusieurs étapes où on a la possibilité de s'engager avec les parents pour leur offrir d'autres services. Parce que ça ne veut pas dire que si on ferme le dossier en protection de la jeunesse, que la famille n'aura pas de service. C'est ça qui est important de savoir. Si on ferme au RTS ou à l'évaluation, on peut être en train de référer, la famille peut décider qu'il veut des services et nous, on réfère à une travailleuse sociale en première ligne. Donc, la DPJ n'a pas besoin d'être appliquée.
Autre point, est-ce que ça peut arriver que des cas qu'on a refusés dans l'année, les mêmes cas peuvent revenir et on va les accepter parce que la situation, donc, va changer, s'aggrave ou...
Oui, tout à fait. C'est sûr que le but, c'est qu'ils ne reviennent pas, qu'on puisse référer vers d'autres services et que l'autre service puisse avoir un impact très positif dans la vie des gens. Mais oui, il peut y arriver des situations qui nous reviennent et qu'à ce moment-là, si la situation s'est détériorée, on va repasser dans le processus dont on a parlé tout à l'heure pour justement offrir un support aux familles.
OK. Quand on intervient... Peu importe l'exemple, négligence, mauvais traitement, abus sexuel, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a eu le signalement, on va intervenir une fois. Y a-t-il un suivi qui se fait? Oui. Comment ça se passe, ça, cette intervention-là avec l'intervenant? On va, dans les cas les moins importants jusqu'aux cas les plus importants. J'imagine que le plus important, c'est qu'on arrive là-bas, on cogne à la porte et on prend les enfants, on les retire de la famille. Mais c'est un peu ça que je voudrais comprendre. Expliquez-nous. Hein.
En fait, une fois que le signalement a été retenu et qu'un intervenant à l'évaluation, orientation, va à domicile pour rencontrer les gens, vous savez qu'aller retirer un enfant, c'est un dernier recours. C'est la loi le prévoit, on doit faire tout dans notre possible pour pouvoir maintenir l'enfant dans son milieu.
OK. Donc, comment ça se passe? On va frapper à la porte, on veut rencontrer les parents. Comment on leur explique ça? On a eu une plainte?
Tout à fait. Ouais. L'intervenant va parfois les appeler pour leur dire, écoutez, on a reçu un signalement concernant votre enfant. On aimerait ça vous rencontrer. On prévoit une rencontre avec les parents. Parfois, on se présente à domicile si on n'est pas en mesure de les contacter à l'avance. Donc, on va vraiment rencontrer les parents, même que c'est une obligation légale de rencontrer les parents.
Est-ce que les parents ont une obligation légale de vous rencontrer? Je veux dire par là, est-ce qu'à quelques occasions, les parents disent « ben non, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème chez nous, on ne voit pas pourquoi vous nous appelez ». J'imagine qu'il y a toutes sortes de réactions qui peuvent survenir, mais est-ce que ça arrive?
Tout à fait. Ouais. Ben, en fait, en 20 ans de protection de la jeunesse, j'ai pas eu souvent de parents qui m'ont refusé nous ont refusé de nous parler ou partager. C'est clair que quand la protection de la jeunesse cogne à la porte d'une famille, c'est pas facile. C'est pas facile pour la famille de savoir que la travailleuse sociale arrive chez eux, qu'on a reçu un signalement pour leur enfant. Beaucoup d'émotions vont sortir de cette situation-là, avec raison. On est là pour les supporter, pour les rassurer aussi que notre intérêt n'est pas d'aller chercher leur enfant, au contraire, de leur informer du signalement. Il peut arriver aussi que finalement, après une première rencontre, c'est clair pour nous qu'on n'a même pas besoin de rester dans la famille et qu'on va offrir des services à la famille qui accepte des services supplémentaires pour supporter, soutenir leur enfant. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est ce qui va arriver. On va avoir quand même une belle collaboration avec les parents.
Dans la majorité des cas, on s'entend, ça se passe assez bien, les parents sont réceptifs, on trouve des pistes de solutions. Mais est-ce qu'il y a des cas extrêmes où vraiment on doit venir intervenir? Et si on avait un pourcentage à lancer où on doit retirer les enfants, est-ce que si on peut...
De retirer les enfants à l'évaluation, j'ai pas le pourcentage avec moi. Ce que je peux vous dire, c'est en Gaspésie, on maintient près de 55% de nos enfants dans leur milieu ou chez un tiers significatif. Donc, on a quand même un certain taux de placement en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, qui est quand même assez bas au niveau du centre de réadaptation. Mais le but de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est de maintenir dans les milieux. Donc, c'est vraiment ce qu'on tend le plus possible de faire.
Et après, donc, le reste, le 45%?
On utilise parfois des familles d'accueil dans des situations où on nécessite une famille d'accueil, où on doit assurer un peu plus de protection ou que l'enfant nécessite une famille. Et des fois, parfois, on a le centre de réadaptation ou la ressource intermédiaire pour des situations qui sont des cas un petit peu plus complexes où on nécessite ce type de service pour l'enfant.
Alors voilà un peu pour l'explication, comment ça fonctionne à la direction de la protection de la jeunesse. Ça prend du personnel, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que avec les années, on a de plus en plus de signalements, de plus en plus de cas? Est-ce qu'on a donc suffisamment de personnes pour répondre justement à ces signalements-là?
Bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, cette année, en Gaspésie, aux îles, on a quand même un très bon bilan pour les enfants de la protection. Donc, on n'a aucun enfant en attente. Ça veut dire que nos intervenants en protection travaillent très fort à offrir le service. Le bilan, cette année, c'est vraiment la cause des enfants tatoués sur le cœur. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'une fois qu'on commence en protection de la jeunesse, on est très engagé, on est passionné à la protection des enfants. On est des intervenants qui, au quotidien, gérons le risque dans un travail qui peut être exigeant. Et je peux clairement vous dire, M. Larry, aujourd'hui, qu'on a des intervenants qui sont rigoureux, qui sont professionnels, qui sont respectueux et qui, à tous les jours, rentrent pour protéger les enfants de la Gaspésie et des Îles.
On comprend la très bonne volonté et ce dévouement des intervenants, mais est-ce que, et quand on entend parler, évidemment, de tout ce qui se passe dans le système de santé, on dit pas mal de problèmes au niveau de l'épuisement. Est-ce que vous sentez aussi que votre personnel, à certains moments, donc, vit cette situation-là?
C'est sûr que je suis vraiment préoccupée des intervenants. Je l'ai toujours été. C'est un travail, en effet, très exigeant. C'est difficile d'intervenir dans une aussi grande détresse chez des enfants qu'on voit tous les jours, d'arriver chez nous à 4 heures, de fermer la porte sur notre journée et de continuer notre travail auprès, des fois, de nos propres enfants. Donc, le travail que nos intervenants font, c'est un travail difficile, mais c'est un travail qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui apporte à l'engagement. Et je vais toujours être préoccupée par comment mon personnel va, parce que pour moi, c'est eux qui offrent le service aux familles, aux enfants.
Et
je suis passée. Oui, tout à fait, je suis passée par là. Donc, j'ai toujours la préoccupation de vouloir être très proche. On n'ira jamais le fait que des fois, c'est difficile.
Sont épuisés. Là, à un moment donné, on va aussi en maladie. Ça existe?
Ça existe tout à fait et ça me préoccupe à tous les jours. Moi, ce que je veux faire comme DPJ, c'est de m'assurer de toujours collaborer à trouver des façons pour que les gens soient bien au travail et puissent continuer à offrir le service qu'ils offrent à tous les jours aux enfants de la Gaspésie et des Îles.
Merci beaucoup d'être passé chez nous pour nous parler évidemment de ce bilan, mais de nous avoir expliqué un peu comment ça fonctionne lorsqu'on a des signalements, qui les fait, d'où ça vient, le fait que ça augmente aussi, donc ça veut dire qu'il y a des gens quelque part qui se préoccupent de ça, et aussi comment on intervient face à cette problématique-là. Merci beaucoup, donc, Michèle Frenette, directrice de la Direction de la protection de la jeunesse Gaspésie et des Îles. Merci.
Merci, M. Larry.